Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Alexandre Niungeko.
Nous sommes 27 août 2022. Vous suivez bien la radio Nzamba Gate Kakawe. Merci d'être à ce rendez-vous. C'est le moment du journal en français, dont voici d'abord les titres. Ce dimanche 28 août, ce sera le 22e anniversaire de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Le mouvement d'action patriotique, Mapurundi, déplore que le parti au pouvoir CNDD-FDD a littéralement détruit cet accord. Le carburant manque cruellement dans la commune de Nyanzalak en province de Makamba. Les utilisateurs des produits pétroliers dans les projets de développement accusent les autorités de la commune d'être impliquées dans le détournement du carburant. Grogne des commerçants du marché d'Okinama à mairie de Bujumbura. Ils disent ne pas comprendre comment on les oblige de donner des cotisations pour l'achat du matériel scolaire pour les élèves indigents. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bonjour. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous d'information.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Demain, ce sera le 28 août 2022 qui marquera 22 ans jour pour jour de la signature de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation du peuple burundais. Le mouvement d'action patriotique, Mapurundi Muhire, condamne le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, considéré comme le destructeur de cet accord. Les conséquences sont énormes, comme les violations graves des droits humains, les tueries, la corruption et d'autres maux qui ont conduit au classement du Burundi, premier pays le plus pauvre au monde. Le président de Mapurundi indique que la solution viendra de la synergie des accords des défenseurs de cet accord d'Arusha, Emily Pacifique Iglanez.
L'accord d'Arusha est un accord de société qui a ramené la stabilité et les espoirs que les Burundais avaient perdus depuis des décennies. Cet accord a sacré est le déterminant de la misère ou de la prospérité du pays selon la façon dont les politiciens décident de le respecter ou de ne pas le respecter. Si nous en sommes là où nous sommes aujourd'hui, le pays le plus pauvre du monde, l'un des pays les moins sûrs du monde, le plus corrompu de la sous-région. Personne n'ignore que tout cela est dû au fait que le gouvernement dirigé par Pierre Nkurunziza du CNDD en 2015 avait décidé d'ignorer ce livre sacré politique du Burundi. Le message de Mapurundi Muhire alors est très simple. Lors de la célébration du 22e anniversaire de la signature de cet accord, à moins que les Burundais ne se rassemblent comme ils l'ont fait en 2000 à Arusha et acceptent de fonder leur agenda politique sur le respect de cet instrument politique, le Burundi continuera à tomber dans un immense puits sombre de misère, de désolation, d'insécurité, de maladie et de guerre. Les solutions ? Eh bien, il y en a une. Rappelons tous les fils et filles du Burundi. Que le gouvernement soit le premier à faire appel aux politiciens, journalistes, intellectuels, réfugiés, investisseurs en exil pour négocier une issue à cet abîme dans lequel nous vivons en tant que pays. Cela honorera chacun d'entre nous. C'est une question d'intérêt national et non d'enjeu politique. En tant que mouvement politique, c'est là où nous en sommes. Et nous nous rallierons à toute initiative ayant un tel objectif.
Émilie Pacifique Guilanesa, le président de Mapurundi Muhire, s'exprimait dans une conférence de presse qui marque 3 ans d'anniversaire de la naissance de cette organisation politique Mapurundi Muhire. Grogne des habitants qui utilisent le carburant dans leurs activités de développement dans la commune de Nyanzalake, nous sommes en province de Makamba, au sud du pays. Ils accusent les autorités de cette commune de détourner ce carburant pour le vendre plus cher dans la clandestinité. Ils demandent qu'elle soit ramenée à l'ordre. Le point avec Pierre Garoum.
Ce sont des lamentations des pêcheurs du lac Tanganyika et des conducteurs de motos et de voitures servant de transport rémunéré. Ils accusent les autorités locales et les propriétaires des stations de détourner le carburant chaque fois que ce produit est disponible sur les stations. Après le détournement, ce carburant est revendu sur le marché noir. Un des conseillers de l'administrateur de la commune Nyanzalak et le chef de la colline Kabondo sont pointés du doigt dans ce commerce frauduleux. Selon nos sources, ce jeudi, des conducteurs de motos et de véhicules faisaient la queue aux stations sans être servis. Le propriétaire de la station a lui aussi emboîté le pas à ses autorités en vidant plusieurs litres de carburant. Les habitants disent éprouver plusieurs difficultés liées à la pénurie de carburant. Ils demandent aux autorités compétentes de suspendre de leurs fonctions les administratifs qui commercialisent le carburant à Nyanzalak, signalant qu'un litre d'essence s'achète à moins de 4 000 à la pompe. Mais sur le marché noir, son prix varie entre 10 et 12 000 francs burundais. Certains chauffeurs de la commune Nyanzalak préfèrent s'approvisionner en province de Kigoma. Suite à ces lamentations, la radio Indamba Agathe Kakawe n'a encore trouvé par téléphone ni les administratifs cités dans cette affaire, ni l'administrateur de la commune Nyanzalak pour connaître leurs avis.
Merci Pierre. Autre lieu, autre grogne, c'est également chez les commerçants du marché d'Okinam en mairie de Bujumbura. C'est suite à l'obligation de cotiser une somme de 2000 francs burundais chacun. Selon les commerçants joués par la radio Inzamba, cet argent serait destiné à acheter des fournitures scolaires pour les élèves indigents de la zone Okinama. Mais là où le bas blesse, c'est qu'ils ne reçoivent pas de preuves de paiement de ces frais. Evelyne Mukeshimana nous en dit un peu plus.
Ces commerçants sont en colère contre le responsable du marché de Okinama. Ce dernier, accompagné de ses collaborateurs, collecte depuis hier de l'argent sans donner de reçu selon des sources sur place. L'argument avancé pour contraindre ces commerçants à donner ces cotisations n'est pas convaincant, ce qui les révolte.
Ils nous expliquent que ces fonds serviront à acheter des cahiers pour les enfants démunis, mais ils ne nous donnent pas de reçu. Il y a quelques jours, ils nous avaient obligés de leur donner de l'argent dans le cadre de la journée nationale dédiée à la solidarité. Et maintenant, ils collectent encore de l'argent sans aucune explication, sans aucune note écrite.
Ces commerçants crient à la persécution et sollicitent l'intervention du gouvernement pour mettre fin à ce qu'ils qualifient de cotisation intempestive.
Nous demandons au gouvernement de suivre avec attention cette situation parce que les commerçants sont en train d'être persécutés. La cotisation est obligatoire.
À ce propos, la radio Inzamba a sollicité Constantin Yokwizera, le commissaire du marché de Okinama, mais il s'est gardé de tout commentaire.
Inzamba. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Il se focalise sur l'incertitude qui plane autour de la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale. À la présentation de ce mini-magazine, Bella Mugisha.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Ijuya Onyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Le 15 juin 2022, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant révision du statut général des fonctionnaires. À travers ce projet de loi, le gouvernement a décidé la mise en place d'une politique salariale dite équitable consacrant une harmonisation des salaires pour tous les fonctionnaires. Sa mise en œuvre était prévue à la fin du mois de juillet 2022. À part que le gouvernement n'a pas tenu sa promesse, dernièrement, des propos contradictoires de certaines hautes autorités à ce sujet ont laissé planer l'incertitude. Voilà sur quoi va porter ce mini-magazine au cœur de la société de ce 28 août 2022 à la présentation Bella Mugisha. Bienvenue. Le gouvernement a prévu 5 milliards et 34 milliards, respectivement, pour les années budgétaires 2020-2021 et 2021-2022 pour financer la compensation des victimes de ces disparités salariales. Mais aucun sou n'a été remis aux fonctionnaires. Même pour l'année budgétaire 2022-2023, une enveloppe de 37 milliards de francs burundais a été récemment votée pour financer l'harmonisation salariale des fonctionnaires. L'espoir des fonctionnaires de voir un léger mieux n'a pas duré longtemps, car à la fin du mois de juillet, ils n'ont rien trouvé sur leur compte. Pire encore, le ministre des Finances, Domitien Ndihokubwayo, a indiqué que l'harmonisation des salaires nécessite d'abord l'intervention des experts internationaux. Il s'exprimait le 8 août lors de la présentation des réalisations trimestrielles de son ministère.
Ce n'est pas un travail que l'on fait en une journée, ça peut même prendre plus d'un mois. Vous pouvez être tranquille, comme l'ordonnance est là, nous sommes en train de travailler pour que les choses aillent vraiment en ordre. Ce n'est pas une mission d'ici au Burundi qui doit permettre de faire. C'est une mission que nous devons aussi chercher à partir de l'extérieur. Parce que nous n'avons pas la compétence pour faire ça. Et là aussi, nous devons passer un marché pour leur demander de faire le travail.
Le vice-président de la République, Prosper Badzombanza, n'a pas tardé à contredire le ministre des Finances. Deux semaines après, il a indiqué que la politique d'harmonisation des salaires suit son cours normal et que les experts internationaux ne sont pas nécessaires.
Soyez tranquille, que plus personne ne déconcerte les gens en affirmant que cette opération va durer une éternité ou qu'il nous faut des experts venus de l'étranger. Ce ne sont que des prétextes, ce n'est pas du tout vrai. Nous suivons de près le dossier. Soyez tranquille et patient, tout va bien se passer.
Les traductions des propos de Domitien Dihokugayo et de Prosper Badzombanza ont été faites par nos confrères de la radio Inzamba. Au micro d'Emile Nibasumba de la RPA, Fostandi Kumana, analyste en économie, indique que le problème, c'est la prévision budgétaire qui ne tient pas compte de la planification.
Pour nous, le grand problème, c'est la planification, la priorisation des besoins par rapport à la budgétisation. Peut-être avec l'avenir du budget programme, ça pourra trouver solution. Mais depuis longtemps, nous avons constaté qu'il y a vraiment un manque de planification par rapport aux prévisions budgétaires. Il y a une différence entre les projets, les plans prévus dans le budget et les prévisions dans les recettes fiscales et comment ils sont gérés. Donc, la capacité d'arrimer les recettes publiques à la planification priorité vraiment est faible. Ça fait qu'il y a alors certaines imprévistes, certains programmes improvisés qui ont un coût élevé, qui viennent, on ne sait pas s'ils procurent des intérêts à certaines classes privilégiées et qui reçoivent de l'argent immédiatement. Alors que cette politique d'harmonisation salariale est une politique qui date de longtemps et avec la libération des anars. Donc j'imagine que ça serait insensé que la situation se bloque de façon impromptissante toutefois qu'il y ait des raisons visibles. Parce que si on en arrive à signer des ordonnances des ministres et on ne comprend pas comment ça peut être bloqué à la dernière minute. Mais comme justement au niveau des prévisions, des fois comme ce manque de liaison était déjà décelé depuis longtemps, ça peut être la cause parce que si on planifie sans avoir prévu comment les recettes seront adaptées à certains programmes fixés, on essaie de trouver un motif, un échappatoire, un alibi alors que réellement ça devait être. Mais sinon, même on fait d'abord un recensement des fonctionnaires, on analyse les secteurs où il y a un pléthore, on fait un redéploiement, puis on harmonise les salaires selon les capacités des ressources nationales, selon les priorités, et puis on essaie quand même d'arbitrer et de limiter les injustices au niveau du secteur de la fonction publique. Parce que si la fonction publique ne parvient pas à s'acquitter de sa mission de façon correcte, c'est l'État tout entier qui est mis en cause. C'est le rendement du secteur public qui est mis en cause.
Le gouvernement avait envisagé de revoir à la hausse progressivement le salaire des fonctionnaires victimes de la disparité salariale depuis l'an 2016. Un budget de 20 milliards avait été prévu à cet effet. Jusqu'à présent, les fonctionnaires attendent impatiemment un léger mieux sur leur salaire mensuel. C'est par ici que nous clôturons le mini-magazine Au cœur de la société de ce 28 août 2022. À la présentation, c'était Bella Mugisha. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Merci Bella. Et comme tous les samedis sur la radio Inzamba Gateka Kawe, voici la revue de la presse de cette semaine, signée Karine Doustavé.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue chers auditrices et auditeurs de la radio Inzamba à cette revue. Nous l'ouvrons par le journal en ligne SOS Média qui écrit sur des difficultés que connaît l'hôpital Prince Régent Charles. Cet hôpital compté parmi les plus fréquentés de la capitale économique Bujumbura est miné de graves difficultés dont l'insalubrité. Le manque de personnel soignant, le manque de lits d'hospitalisation et celui des médicaments. En plus, les patients doivent payer des pots de vin pour être accueillis selon SOS Média. Construit en 1945, le financement qu'il reçoit n'est pas suffisant, soit un quart de ce qu'il devrait avoir. Selon Oscar Niemeyer, médecin directeur de cet établissement sanitaire, je cite, « Si rien n'est fait, l'hôpital va fermer, car on nous donne des subsides de 30 millions de francs burundais, alors qu'on a besoin de 120 millions de francs burundais. » Nous poursuivons avec le journal Iwachu. Plus de 414 filles et femmes burundaises ont été victimes de trafic d'êtres humains en 2021, titre le journal. Après un recrutement clandestin, ces femmes et filles sont conduites vers les pays du Golfe comme Oman, Arabie Saoudite, Qatar et Koweït. Prim Mbarukeye, le représentant légal de l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, où est mon frère, dit que la plupart de ces Burundais sont traités comme des esclaves et font objet du trafic sexuel, du trafic d'organes et du travail forcé. Selon lui, les provinces de recrutement sont principalement Rumonge, Makamba et Muyinga. Cet observatoire appelle le gouvernement à suivre de près les activités des agences de recrutement des travailleurs migrants. Le journal Burundi Echo parle d'un accord signé le 22 août de cette année entre le Burundi et la République démocratique du Congo sur la construction d'un chemin de fer Uvinza-Musongati-Gitega-Uvira-Kindu. La demande de financement a été adressée à la Banque africaine de développement BAD. Le corridor central est chargé de faciliter les travaux et de faire des lobbying auprès des États membres pour réduire les barrières commerciales. Ainsi, il y aura diminution des frais imposés aux passagers frontaliers. Le temps de passage des frontières sera réduit. Il y aura aussi la mise en place des postes frontaliers à arrêt unique. Et c'est par cet élément que nous bouclons cette revue de presse de ce samedi. Vous étiez avec Karine Dessabé. Un bon week-end chez vous. Au revoir.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Page nécrologique pour boucler ce journal. Pina Karutimana, un ancien militant pour les droits de l'homme au Burundi, n'est plus. Il a rendu son âme ce vendredi. Il avait été, entre autres, président de la Ligue des droits de l'homme ITK, délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile, et la ligne divisine défenseur des droits de l'homme au Burundi, qu'il a côtoyé, garde de lui un fervent défenseur des droits de l'homme, un patriote dont l'intégrité était sans égale. On l'écoute.
Alors qu'il était délégué général de force, que j'étais délégué général suppléant, nous avons collaboré pendant deux mandats. À cette époque-là, je l'ai connu comme un homme avec de grandes œuvres, très engagé, mais aussi avec un grand cœur, quelqu'un de résilient, donnait pas l'impression d'être surchargé par ses conditions, sa condition de victime des atrocités qui ont touché le Burundi, mais aussi qui ne semblait pas être surchargé par les diverses activités qu'il avait dans le domaine des droits de l'homme. Parce que Forske venait de faire 2 ans quand il a dirigé la première équipe, venait de terminer son premier mandat, le premier mandat de Forske, et il était très impliqué, sollicité, il faisait pression sur la société civile. En fait, je ne dirais même pas qu'il faisait pression, mais il a pris le leadership pour que les organisations de la société civile s'investissent dans plusieurs domaines pour faire partie de la mise en application de l'accord d'Arusha en tant que société civile, c'est-à-dire dans le suivi de la gouvernance, le suivi de la justice de transition, le suivi de l'intégration régionale. Dans tous les domaines, et il a encouragé les jeunes, les femmes et les adultes pour qu'ils s'investissent dans le suivi de la politique gouvernementale. Il avait un mot d'ordre, il encourageait les membres de Forske dans les différents pôles thématiques pour qu'ils mettent en avant la justice. Le mot d'ordre, c'était la justice.
Et voilà, c'est par là que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous toutes, tous, chers auditrices, auditeurs de la radio Inzamba, la TKKOE, pour votre fidélité. Merci à la rédaction de la radio Inzamba pour la production de ce journal. À tous et à chacun, je vous souhaite de passer un agréable week-end chez vous et parmi les vôtres. Au revoir et à la prochaine.